Donc on enchaîne avec la troisième présentation de Monsieur Sécheresse, simulation low cost high value.
Merci. Alors, mesdames, messieurs, chers confrères, chers amis, j'aimerais déjà remercier le comité scientifique de m'avoir confié ce thème, simulation low cost, high value. Parce que la question, c'est faire de la simulation low cost, oui, c'est faisable, mais est-ce que c'est efficace? Donc on va essayer de réfléchir ensemble autour de cette chose-là. Alors, parce que on en est tous persuadés ici, on est entre nous, on adore la simulation. Et on est sûr que c'est ça la simulation pour nous. C'est quelque chose qui est à haute valeur ajoutée pédagogique, mais ça demande des moyens, ça demande du temps, ça demande de l'argent. Quand on voyage en simulation, on n'est pas, on est même au-delà de la classe affaires, on voyage dans quelque chose qui ressemble à ça. Donc on a un très bel outil qui est extrêmement efficace. La question aujourd'hui, c'est de celle de l'efficience pédagogique de cet outil. C'est un outil qui est efficace, c'est un outil qui coûte cher, donc il ne faut pas se tromper de cible. Il faut bien se poser la question de pour qui, quand, pour quel objectif et comment. Et la simulation, bien ciblée, ça marche. Par contre, ça, effectivement, a un certain coût. Donc finalement, est-ce qu'on peut faire du low cost? Est-ce qu'on peut faire du low cost en simulation? Alors, c'est quoi le low cost en simulation? Ça pourrait être quelque chose qui ressemble à ça. C'est un mannequin en bois, tout simple, ça coûte pas cher. Alors, j'ai compté, elles sont 24 autour. Elles sont 24 autour de ce patient. Ça, ça coûte pas cher. Alors, soit dit en passant, c'est une photo qui remonte au début du siècle dernier. La simulation, ça date pas de 10 ans. La question, c'est pédagogiquement, qu'est-ce que ça entraîne? Est-ce que le risque, c'est pas que ça se termine comme ça, le low cost? Donc, bienvenue sur ce vol easysim.com à destination de Caen pour quelques minutes. Pour essayer de réfléchir ensemble autour de ce que c'est que cette situation de simulation low cost et finalement, qu'est-ce qui fait que ça marche ou que ça ne marche pas. Alors je vous propose d'aborder rapidement trois choses. Premièrement, s'intéresser à la simulation low cost autour du matériel, la simulation low cost en augmentant le nombre de passagers, c'est-à-dire le nombre d'apprenants, et puis en se disant, mais qu'est-ce qui coûte cher dans la simulation? Finalement, c'est le formateur, donc peut-être qu'on peut l'enlever celui-là, hein. Ça reviendra moins cher comme ça. Alors premièrement, le matériel. Alors c'est intéressant de se poser la question du matériel, on a pas mal discuté aviation avec nos collègues de l'aviation. Si on prend l'un d'entre nous, à part les spécialistes de l'aviation, il y a peut-être des pilotes privés dans la salle, on nous bande les yeux et on nous emmène dans un cockpit d'avion, quelque chose qui ressemble à ça en haut là, surtout si on fait ça de nuit, on ouvre les yeux, je ne suis pas sûr qu'on soit capable de dire si on est dans un véritable cockpit ou si on est dans un simulateur de vol professionnel. Par contre, vous prenez tout pilote, vous lui montrez un de nos mannequins, il n'y en a pas beaucoup qui vont penser, voire aucun qui pensera que c'est un vrai patient. Donc, si on veut faire du low cost avec le matériel, il va falloir être prudent. Deuxième élément, allez-y, en 1988, proposer cette courbe-là qui est extrêmement intéressante, qui est la courbe d'apprentissage en fonction du niveau de fidélité. Or, qu'est-ce qu'on voit sur cette courbe? On voit que pour nos experts, on atteint un plateau. Par contre, pour nos apprenants novices ou voire apprenants expérimentés, il y a une chute. C'est-à-dire que après un certain niveau de fidélité, ça baisse. Ah, alors donc si on veut faire du low cost avec les mannequins, par exemple, avec le matériel, voyons voir ce que ça donne. Alors, si on regarde la littérature maintenant, la littérature, qu'est-ce qu'elle nous dit? Norman, en 2012, qu'est-ce qu'il nous dit? Finalement, qu'on fasse de la haute fidélité ou de la basse fidélité, il n'y a pas beaucoup de différence sur l'apprentissage. Tiens donc. Allez, on continue. On continue avec Curran, par exemple. Curran, qu'est-ce qu'il nous dit? Pour des étudiants en médecine, faire de la haute ou de la basse fidélité. Alors, effectivement, ils sont plus contents, ils sont plus en confiance avec de la haute fidélité, mais en termes d'apprentissage, pas beaucoup de différence. une autre étude en dessous, que ce soit sur des connaissances déclaratives, que ce soit sur des skills, même chose, pas beaucoup de différence. Celle-là est intéressante parce que c'est sur le niveau de stress des étudiants, des internes, même chose, qu'on fasse de haute fidélité, basse fidélité, pas de différence sur le niveau de stress. Donc cette histoire de locaux, ça va nous amener à se dire, ben, finalement, on va peut-être s'intéresser à cette notion de fidélité, en fait. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir utiliser, par exemple, du matériel de moins cher, du matériel de basse fidélité, mais est-ce que, pour garder cette efficacité, qu'est-ce qui va faire qu'on va garder cette efficacité? Alors, c'est quoi ce concept de fidélité? Qu'est-ce que c'est que ce concept de fidélité? Fidélité, ça peut être défini de différentes façons, et c'est un peu la problématique, c'est que le concept est finalement assez complexe. Marron et Glavine, par exemple, c'est quoi? C'est un comportement entre, c'est une correspondance, pardon, entre d'un côté l'apparence et de l'autre le comportement du simulateur du système simulé. Allez, une autre définition, c'est gros, doireau et poisson. Première partie de la définition, c'est exactement la même qu'au-dessus. Par contre, la deuxième partie de la définition est intéressante. C'est la fidélité psychologique. La fidélité psychologique, c'est quoi? C'est comment mon système va reproduire les indices de situation. Il va reproduire ce qui va permettre aux professionnels de santé de prendre en charge, de repérer dans une situation les éléments qui vont lui permettre de prendre sa décision. Troisième notion, la notion de Kahn. La notion de Kahn, c'est quoi? C'est la fidélité de perception. Comment mon individu perçoit le simulateur comme étant fidèle. Alors ce qui va nous sauver en simulation santé, et ce qui va nous sauver lorsqu'on va faire la simulation low cost, c'est ça. C'est que la fidélité, c'est un ensemble de choses. C'est un concept multifactoriel. Multifactoriel autour de différentes choses. La fidélité physique, il a deux bras, deux jambes, il pèse 80 kg. La fidélité fonctionnelle, il reproduit les réactions physiologiques, la fidélité psychologique, les indices de situation, la fidélité de l'environnement, notamment les indices sensoriels, la fidélité temporelle, et voire pour certains auteurs, la fidélité émotionnelle. Donc en termes de locaux, ce qui nous sauve, c'est ça. Puisqu'en fait, ce qui est important, c'est de maintenir un niveau de fidélité de perception élevé. Pour que ça marche, il faut un niveau de fidélité de perception élevé. Donc c'est là où on va pouvoir utiliser des simulateurs low cost, du matériel low cost quelque part, donc beaucoup plus simple, à condition que le niveau de fidélité de perception reste au-dessus d'un certain niveau, permettant aux individus de rester dans la situation de simulation. Donc ce qui nous sauve, c'est qu'effectivement, tout ce qui touche autour du simulateur, ce que j'ai entouré en rouge ici, en fait c'est qu'un élément de l'ensemble. Et dès l'instant où on reproduit les indices de situation, on va arriver à faire de la simulation dite de haute fidélité, mais avec du matériel nettement moins cher. Deuxième élément, pour faire du low cost, on va augmenter le nombre de passagers. Augmenter le nombre de passagers consiste à augmenter le nombre d'apprenants. Donc, si j'augmente mon nombre d'apprenants dans ma situation de simulation, je vais avoir des apprenants qui vont prendre en charge le patient. Entre parenthèses, je ne dis pas apprenant acteur, parce que la simulation c'est tout sauf du théâtre. Et des apprenants observateurs. Alors, les apprenants observateurs, c'est intéressant parce que, finalement, qu'est-ce que je vais en faire des apprenants observateurs? Parce que si je réfléchis un peu sur les concepts sous-jacents à la simulation, les concepts théoriques, la simulation, c'est quoi? Bah, c'est un apprentissage dans l'action et par l'action. Si on reprend quelques cadres théoriques, un de ceux qui est le plus souvent situé, c'est le cycle de Kolb. Le cycle de Kolb, vous connaissez, c'est quatre étapes. Première étape, je suis dans l'action, je prends en charge mon patient, j'ai une expérience concrète, simulation. Deuxième étape, réalisée par la première partie du débriefing, je me remémore ce qui s'est passé, observation, réflexion, puis modification des schémas de pensée, construction de nouveaux schémas de pensée par phénomène de conflit cognitif ou conflit socio-cognitif. Pendant le débriefing, attention, il y a une quatrième étape dans Kolb, mise en action de ces nouveaux schémas de pensée. Je vois que ça marche, je les mémorise en mémoire à long terme. Une des règles de la simulation, après jamais la première fois sur le patient, si on suit Kolb, pourrait être jamais une seule simulation par participant. Le problème, c'est que dans Kolb, l'apprenant observateur, il n'est pas présent. c'est l'apprentissage, c'est dans l'action, il y a deux éléments d'action, hein, l'expérience concrète et l'expérience active. Puis on peut prendre d'autres cas théoriques, hein, Erickson, le Deliberate Practice, Learning by Doing de Dewey, ou Sean avec sa réflexion dans l'action et la réflexion sur l'action. Donc, dans les cas théoriques sous-tendant la simulation, ben, l'apprenant, observateur, il n'est pas là. Ah, oui, vous allez me dire, il y a le débriefing. Et on sait bien que la simulation, c'est qu'un prétexte pour faire ce machin là, comme ça. Ah oui, le débriefing. Ça sert à ça. Donc, il apprend pendant le débriefing. Et ben, regardons donc les définitions du débriefing. Pierre Pastré, qu'est-ce qu'il nous dit ? Ben, que le débriefing, c'est quoi ? C'est une pratique réflexive sur sa propre action. Ah. Bon, alors Rudolf, ça permet à quoi le débriefing ? Ben, de travailler sur leur raisonnement, leur émotion, leurs actions survenues durant la simulation. Ah, là on est donc sur les émotions, les réactions, les raisonnements des gens qui ont fait la simulation. Donc mon observateur, ah non, il ne rentre pas non plus dans cette définition. Bon, bah Dieckmann alors. Dieckmann s'intéresse aux interactions sociales, donc interactions sociales dans le groupe, dans mon débriefing, sur de l'expérience vécue pendant le scénario. Ah bah là, ça m'embête, parce que là non plus, mon apprenant observateur, je ne sais toujours pas quoi en faire, parce que là... Que ce soit dans le cadre théorique, que ce soit dans la définition du débriefing, ils ne rentrent pas. Donc, si je veux faire du low cost en mettant des observateurs, d'un point de vue conceptuel, je ne sais pas où les mettre. Bon, si on testait ce que ça donne. Ah, ben là, ça va devenir encore plus compliqué. Hein. On va faire du conflit cognitif. Hein. Parce que finalement, les observateurs, ils apprennent. Un exemple d'étude sur des connaissances déclaratives des étudiants en médecine, qui regardent ou qui soient dans l'action, ils apprennent pareil. Bon, on va voir ailleurs. O'Regan, Advanced in Simulation. Revue de la littérature, ben, même chose. Hein, y en a beaucoup plus qui apprennent. Bon, plutôt, quand on regarde un petit peu la littérature, donc, globalement, pas de différence entre ceux qui sont dans l'action et ceux qui observent. Bon, et bien, même à CCPM hein, de l'an dernier, pas de différence entre les participants acteurs et les observateurs. Sur du comportemental, c'est du CRM. Ou sur des connaissances, sur de la connaissance déclarative. Donc la question, c'est pas de se dire, ben, finalement, qu'est-ce que je vais faire mes apprenants observateurs, parce que ça rentre pas dans mon cadre théorique. Oui, mais les études empiriques montrent que ça fonctionne. Donc en pratique, comment ça fonctionne ? La question qu'il faut se poser, c'est comment ça fonctionne ? Ben comment ça fonctionne ? Il y a un certain nombre de conditions. Quand on regarde un peu plus en détail ces choses-là, pour qu'un apprenant observateur apprenne, ben, il n'est pas dans une séance de cinéma. Il y a un certain nombre de conditions. On commence à avoir des idées sur ces conditions. C'est quoi ? C'est que c'est de l'observation active. C'est les grands classiques. L'apprentissage est un phénomène actif de création, de lien entre ses connaissances antérieures avec les nouvelles connaissances, etc. etc. Ben, c'est la même chose pour notre apprenant observateur. Il doit être actif. Il doit être actif, c'est-à-dire qu'il a une mission pendant l'observation, médiatisée éventuellement par un outil d'observation qui lui permet de se focaliser sur cet objectif et la participation au débriefing dans cette pratique réflexive de co-construction de connaissances. Premier élément d'apprentissage. Deuxième élément, si je veux faire du low cost, j'ai mes deux observateurs, et finalement, bon, qu'est-ce qu'ils vont apprendre en regardant ? Apprendre en regardant, ça s'appelle l'apprentissage vicariant, c'est Bandura, et comment ça fonctionne, cette chose-là ? Comment ça fonctionne ? Eh ben, je regarde, j'apprends en regardant un modèle similaire à moi-même. Si quelqu'un n'est pas similaire à moi-même, je suis soignant, je regarde le chef de service, ben, je ne vais peut-être pas tant apprendre que ça. Premièrement, similaire à soi-même. Deuxièmement, qu'est-ce que je vais observer ? C'est le comportement du modèle. Qu'est-ce qu'il fait ? Troisièmement, c'est les conséquences de ce comportement. Et en fonction des conséquences de ce comportement, ben, je vais apprendre en faisant ou en ne faisant pas. Si les conséquences sont positives, je vais adapter le même comportement. Si elles sont négatives, je ne vais pas le faire. C'est ce qu'on fait tous les jours. Hein. C'est ce qu'on fait tous les jours. On apprend beaucoup en regardant les autres. Alors, ça pose une question intéressante en termes de simulation, parce que dans la simulation, notamment en formation initiale avec nos étudiants, avec nos internes, voire même en formation continue d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a finalement face à une thématique ? On a des novices qui regardent des novices. C'est intéressant ça en termes d'apprentissage vicariant. Parce qu'on a des novices qui regardent des novices. Or on le sait tous, une situation de simulation, il se passe énormément de choses. Il se passe énormément de choses. On ne va pas tout débriefer. Donc on voit des gens qui vont regarder d'autres personnes qui vont faire un certain nombre d'erreurs. Alors les grosses, on va peut-être les débriefer, mais plein de petites erreurs au milieu. Un exemple classique, c'est l'hygiène. Est-ce qu'en session de simulation, on a les mêmes conditions d'hygiène identiques, notamment si on travaille autour de l'urgence, est-ce qu'ils vont prendre des précautions d'hygiène lorsqu'ils vont manipuler cette rampe de perfusion, ce matériel, etc. Identique. Peut-être pas, peut-être, c'est bien, peut-être pas. Mon apprenant observateur, novice, il voit ça. Est-ce que ça prête à conséquence s'il y a une faute d'hygiène? Bon, non, il ne va pas mourir le patient derrière. Et finalement, il va peut-être se dire, c'est ça qu'il faut faire. Donc la question de l'apprenant observateur, elle est intéressante. Effectivement, pour faire du low cost, ça fonctionne. Maintenant, la question qui reste à se poser, c'est qu'est-ce qu'ils apprennent vraiment et quelles sont les modalités d'apprentissage. Donc, comme pour finir un article, d'autres études sont nécessaires. Allez, troisièmement, et si on s'intéressait à ce qui coûte le plus cher, c'est-à-dire le formateur. Y a-t-il un pilote dans l'avion? On pourrait faire pas cher en enlevant le formateur. Bon, il y en a qui l'ont fait, C'est notre collègue Sylvain Bouet. Débriefing avec formateur versus débriefing sans formateur. Dans les deux groupes, ils apprennent, mais il n'y a pas de différence. Ça, c'est du débriefing individuel ou du seul débriefing individuel. Donc, on va le faire en équipe pour voir ce que ça donne. Résultat similaire. Bon, on est tous au chômage. Il n'y a pas besoin d'un formateur dans le débriefing. Il n'y a pas besoin d'un formateur. La preuve, pas de différence entre les groupes. Bon, comme on veut quand même aller à Strasbourg l'an prochain, il va falloir qu'on aille un petit peu plus loin quand même. Si on regarde la partie gauche de la diapo, que ce soit celle-là ou la précédente, c'est exactement la même chose. Ça, c'est intéressant parce que quel est le cadre pédagogique? Quel est le cadre pédagogique? Le cadre pédagogique, en fait, il est extrêmement précis. Alors, c'est un exemple dans cette étude, mais on va le généraliser derrière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de débriefing, mais par contre, il y a quoi avant? Il y a une sorte de briefing ou un cours, une formation sur la thématique, c'était le CRM. Non seulement sur le CRM, mais sur l'outil qui va être utilisé, la NTS ou l'Ottawa Global Rating Scale. Premier élément. Deuxième élément, ce n'est pas discuter autour du café, le débriefing, c'est une autoconfrontation à la vidéo dans ces deux études, autour d'un outil extrêmement précis. Et regardez la consigne. La consigne, elle est intéressante. La consigne, elle est très précise. Finalement, en fait, quelque part, c'est comme si le formateur était là quand on a une consigne comme ça. De réfléchir sur ses performances et comment on va pouvoir les utiliser en donnant une grille qu'on a travaillée avant avec une formation théorique. C'est-à-dire que le cadre pédagogique, il est identique quelque part. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on va en déduire de cet exemple-là? C'est que si on veut faire du low cost, et le parallèle avec l'aviation, on va le faire là, c'est-à-dire que quand vous voyagez sur EasyJet, peut-être qu'on va attendre, ici ou autre, peut-être qu'on va attendre debout dans la salle d'attente, peut-être qu'on va payer dans le jus d'orange. Par contre, heureusement pour nous, et c'était dit par notre collègue pilote lundi, les normes de sécurité, elles sont strictement identiques. Donc, en termes de simulation, si on veut faire du low cost, on peut jouer sur certaines choses. Par contre, les normes de sécurité, ce qu'on va appeler, nous, le cadre pédagogique, ça, on touche pas. Ça, on touche pas. Que ça soit le déroulé, ou que ça soit le débriefing. Il faut faire un débriefing, et le débriefing doit obéir à certaines règles. Globalement, aujourd'hui, c'est une des seules règles qui existent et qui doit être structurée, on ne sait pas exactement comment. Donc, avant de conclure, c'est intéressant ces notions de low cost, parce qu'on y est amené, ça coûte cher, il va falloir qu'on voit un petit peu, mais... ne perdons pas de vue un certain nombre d'éléments. Alors, on peut faire d'autres choses. Mon propos était très centré simulation pleine échelle. On peut aussi changer de méthode de simulation, et c'est l'énorme avantage de la définition de la simulation dans le guide de la chaise, c'est que derrière le mot simulation, on met plein de choses. Entre le serious game, le virtuel, le partner stunner, la réalité virtuelle, le plein échelle, c'est plein de choses, mais par contre, à chaque fois, c'est des choses différentes en termes de processus d'apprentissage. Alors, on peut switcher d'une méthode à une autre. C'est le dernier numéro de Simulation in Healthcare. On switch d'une méthode à une autre. On compare le mannequin versus le virtuel, en l'occurrence, c'était plus du serious game. Pas de différence en termes d'efficacité. 3 fois moins cher pour le virtuel, le serious. Allez, on conclut. On conclut sur cette histoire de low cost. Avant de se poser la question de low cost, on garde en tête que la simulation, ce qu'on veut, c'est de la simulation high value. On veut de la simulation qui est efficace. On s'est battu, c'est les premiers congrès, on a tourné autour de ça en se disant, au fait, la simulation, c'est efficace. Alors, pas pour nous, on en est tous convaincus. Mais
comment on prouve que c'est efficace, quel est l'état de l'art au jour d'aujourd'hui sur l'efficacité de la simulation. Au jour d'aujourd'hui, plus personne se pose la question, oui c'est efficace, mais on garde cette efficacité. Donc simulation high value. Après, est-ce que c'est high ou low cost? On voit que sur le matériel, on peut probablement faire du low cost, mais à condition de garder la notion de situation authentique, donc de fidélité de perception, donc d'indice de situation, premier élément. Deuxième élément, on augmente le nombre de passagers, c'est-à-dire on augmente le nombre d'apprenants, donc la place des apprenants observateurs. Ben, la question est encore posée, qu'apprennent-ils et comment? Et troisième élément, non, on n'est pas au chômage, on reste là, ce qu'on touche pas, c'est le cadre pédagogique. Le cadre pédagogique, il est extrêmement précis, avec une méthodologie extrêmement rigoureuse, qui repose sur un cadre théorique sous-jacent très précis. Merci de votre attention.